Vous êtes sur Radio Alliance Plus et je vous rappelle que cette semaine est sous le signe du 7e art. Nous sommes en direct tous les soirs de 19 à 20h depuis l'Université Vauban où se tient le festival Une salle sous les étoiles. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne pourraient nous écouter jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. Cette émission sera très bientôt disponible en podcast sur Radio Alliance Plus. Et nous recevons maintenant Morad qui s'occupe de la cantine du festival et réjouit les estomacs des visiteurs, mais aussi de toutes les équipes depuis 6 jours. Salut Morad.
Salut.
Alors, comme je le disais, tu gères la cantine solidaire du festival pendant toute cette semaine. En quoi ça diffère d'un débit de nourriture classique qu'on peut retrouver dans les autres festivals ?
Je ne suis pas du tout expert de l'état des autres cantines dans les festivals. Ce qu'on peut dire là, c'est que la destination, on va dire, de l'argent qu'on récolte se répartit entre plusieurs associations pour pouvoir en fait derrière permettre à ces associations d'acheter des produits qu'on aura identifiés, donc des produits du coin, de qualité, de saison, voilà, pour nos différents publics et pour nos différentes actions, on va dire.
Voilà, parce que j'ai pu apercevoir pas mal de personnes derrière les fourneaux et le comptoir, des gens venant d'associations diverses, regroupées sous le nom du coup de collectif d'associations nîmoises de solidarité et d'accès aux soins, également appelé du coup CANSAS.
Exactement, et depuis peu on a changé accès aux soins, on l'a mis accès à la santé pour l'élargir. C'est un collectif qui date de 2021. Qui a été pendant très longtemps, en tout cas sur les 2 dernières années, porté autour de des précarités hygiéniques et notamment en lien avec la ville de Nîmes. Donc c'est le pôle santé de la ville de Nîmes qui était coordinatrice de ce collectif-là. Et depuis un an, on travaille. Moi je travaille à la Croix-Rouge et donc il y a 14 structures dedans dans ce collectif. Et il y avait déjà une antenne de la Croix-Rouge sur la partie espace bébé parents qui en faisait partie. Et donc moi je suis revenu. Dans ce collectif-là au nom de la Croix-Rouge sur la partie alimentation en disant que accès à la santé, solidarité, ça a un sens qui est direct et que aujourd'hui on a le sujet de du bien manger et de la santé des personnes et de tout ce que ça implique en fait aujourd'hui de manger correctement pour une personne qui est en situation de vulnérabilité, c'est très très important et que seul dans sa structure, c'est pas comme ça qu'on va changer les choses parce que les gens sont volatiles aussi dans nos structures, c'est-à-dire qu'elles sont pas attachées à nos structures, elles sont libres d'aller où elles veulent et elles vont dans différentes associations et donc c'est important qu'on puisse être aussi cohérents les uns avec les autres et qu'on puisse aussi travailler à une certaine équité et égalité sur un territoire dans tout ce que l'on propose. Donc c'est pour ça que ce collectif aussi vit et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui.
Du coup, tu parlais de bons produits. Il y en a eu quelques-uns là depuis le début du festival. Par exemple, qu'est-ce que les gens vont pouvoir manger ce soir ?
Alors ce soir, ça va être un Bouddha bowl façon libanaise. Donc du coup, c'est un mélange de riz, lentilles, corail. Et après, c'est des galettes de pois chiches avec une petite sauce bien sympathique. Et puis après, crudités qui vont être accompagnés. Et puis en dessert, on aura des salades de fruits de saison et un gâteau au chocolat qui est préparé aussi.
Intéressant tout ça. Et alors, c'est végétarien, non ?
Alors, c'est végétarien, pas tous les soirs, mais on essaye quand même. Nous, le principe, il est de faire quelque chose de très simple et d'accessible pour tout le monde. Et en même temps, pour nous aussi, que ce soit quelque chose de simple. C'est-à-dire que là, on n'a pas une cuisine comme on en aurait une dans notre propre cuisine actuelle. Donc de faire plusieurs plats, c'est complexe. Et l'idée, c'est de faire un plat, un dessert ou des variantes. En tout cas, de dessert, c'est plus simple à faire. Et dans ce cas-là, avec les restrictions ou en tout cas les régimes spéciaux qu'il peut y avoir, végétarien, ça reste le plus, en tout cas prédominant sur les différents menus qu'on a préparés. Mais c'est aussi dans notre volonté, sans aller dans un truc purement végétarien. Mais c'est important. On défend aussi ça dans nos structures, le fait que de manger moins de protéines carnées, c'est important. Ouais. C'est aussi important d'un point de vue budgétaire, parce qu'en fait, on fait aussi comprendre aux personnes qui ont des difficultés financières que de manger végétarien, c'est un apport pour elles, en fait, pour leur santé. Et financièrement parlant aussi, ça aussi, ça réduit les coûts, parce que les protéines carnées sont coûteuses. Donc on promeut ça d'une certaine manière.
Oui, c'est bien. Et puis surtout, c'est que ça permet. Je trouve, moi, je suis pas végétarien, mais j'ai mangé avant-hier ici. et c'était végétarien et je me suis régalé parce qu'il y a des saveurs, il y a des choses que je... Alors, il y avait du quinoa, bon, il y avait plein de choses et il y a beaucoup d'inventions en définitive. Et c'est vrai qu'un steak, bon, on peut le prendre, on le grille, on le met avec une sauce au roquefort ou je sais pas, échalote, et puis bon, ça reste ça sera toujours un steak, vous voyez. Et mais là, il y a un besoin d'inventivité. Et je pense que ce qui est bien avec la cuisine végétarienne, c'est ça. C'est-à-dire que on peut faire tellement de choses, l'imagination n'a pas de limite.
Bien sûr, ben il y a énormément de produits que l'on peut utiliser dans l'alimentation végétarienne. Et c'est quelque chose que l'on utilise régulièrement. C'est aussi une réalité au vu des personnes qu'on accueille, parce qu'on a beaucoup de personnes. Là, je parle plus dans notre propre structure. Mais on a quand même pas mal de personnes qui ont des régimes type qui ne mangent pas de viande si ce n'est de la viande halal, et dans le milieu de l'aide alimentaire il y a quand même très très peu de viande halal, et vu qu'on accueille encore une fois des personnes très variées, on n'a pas souvent la possibilité d'avoir une carte à 15 plats. Généralement ça reste un ou deux plats. Du coup voilà, c'est sûr que la dimension végétarienne elle reste très importante, et elle nous permet de faire beaucoup beaucoup de choses. On peut y associer beaucoup de produits et puis les préparer différemment. Enfin, c'est pas restrictif en tout cas.
Et le personnel dont vous disiez que vous aviez des salariés, est-ce que c'est vous qui les formez ou est-ce que aussi vous invitez vos bénéficiaires à participer au repas ou à créer quelque chose, ou ne serait-ce que même dans la gestion du quotidien, peut-être bien acheter, faire attention à des choses, enfin, je sais pas.
Si on prend les choses dans l'ordre, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Nous, si là je parle de ma propre structure, nous, moi je travaille donc à la Croix-Rousse sur un espace de restauration qui s'appelle Soukassa, qui est 4 rue Sainte-Catherine, perpendiculaire au Jean Jaurès, vers le Café Pantel. Nos équipes sont des équipes salariées en cuisine qui ont plus ou moins d'expérience dans le milieu de la restauration. Les personnes que l'on accueille sont des personnes qui sont dans une situation de grande précarité. Certaines avec très peu de ressources, beaucoup de publics de rue, beaucoup de personnes en hébergement d'urgence ou dans une période d'urgence, donc des gens qui ont plus ou moins des ressources, plus ou moins que plus. Et donc la question de l'après, quand vous parliez tout à l'heure de la gestion budgétaire, elle se fera peut-être dans un second temps ou dans d'autres endroits que dans le nôtre, parce que voilà, c'est les gens arrivent dans de l'urgence. Mais on ouvre la participation qui est très importante aux personnes, évidemment. C'est-à-dire qu'on a eu pendant un moment des personnes qui venaient de pays d'Afrique et qui avaient aussi des... Enfin voilà, la question de toute façon de la préférence culturelle ou de la spécificité culturelle des uns et des autres est très importante à prendre en compte.
Le partage, quoi, en définitive.
C'est le partage, et c'est aussi la valorisation des personnes dans leur histoire et dans leur patrimoine, on va dire, personnel et culturel. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important à valoriser et à prendre en compte. Ça permet de remettre l'individu au centre et son histoire au centre. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire, c'est pas toujours évident. Encore une fois, on a quand même un public qui est vraiment en difficulté et qui a pas toujours la disponibilité comme on l'a là de pouvoir discuter tranquillement, de se projeter. Non, les gens déjà, ils viennent pour manger, ça va très vite et... Donc c'est l'autre réalité, mais voilà, nous, notre volonté à terme, c'est quand même de créer un espace où on prend un peu plus le temps, où on peut beaucoup plus travailler sur cette participation avec les personnes. Et on a des gens qui viennent, qui ont déjà préparé des choses avec nous, en fait, au sein de la cuisine. On a beaucoup de bénévoles qui sont des personnes qu'on accueille aussi. Et ça nous permet de personnaliser cette chose-là et de remettre... un peu plus de dignité aussi pour ces personnes.
Bien sûr, je crois que c'est vrai et c'est important. Et c'est vrai, il y a deux choses, j'allais dire, sémantiques dans le droit, hein, n'est-ce pas ? C'est le logement et la nourriture. C'est important. Et elle est dans le préambule de notre Constitution, hein, c'est le préambule des droits de l'homme. On a un peu tendance à les oublier des fois. Hein. Mais en tout cas, ça en fait partie. Et je crois que c'est très bien. C'est très bien et je suis heureux en tout cas de vous entendre, de voir que on n'est pas que dans un monde d'égoïsme, on est dans un monde de partage, et ça c'est très très beau en tout cas.
Bah, c'est des choses qui sont essentielles aujourd'hui, et puis vous parlez le contexte, le dernier contexte actuel, passé on va dire, on va essayer de le mettre de côté pendant un petit moment, mais en tout cas il est central. On se rend compte que les gens ne prennent plus ce temps de partage, ne prennent plus le temps d'aller vers l'autre, ne prennent plus le temps de d'être patient en fait. Et c'est quelque chose qui manque énormément. Nous, dans les différentes structures, on essaye de travailler sur ça aussi, de se mettre à corps sur cette manière-là d'agir pour que, en fait, l'idée du collectif, pour en revenir, c'est vraiment de se dire comment on peut se coordonner entre nous pour faire en sorte que, quel que soit l'endroit, l'heure, la période en fait, où la personne se présente dans une de ces structures, elle ait un accueil qui puisse être le même et qu'on reste cohérent dans cette manière d'avancer. Et c'est certain que la notion de partage, elle est centrale et c'est ce qui... En fait, on peut pas concevoir en fait la suite de la vie sans être en conscient de ces choses-là. Sincèrement, en fait, nous, on est face à des personnes qui sont vraiment en très grande difficulté. Ça reste une partie très infime de la population française, mais qui est présente. Et on se rend compte aussi de la distance qui existe entre le public, ce public-là, et on va dire le grand public. Et on se rend compte aussi de ça en discutant, en échangeant avec ici. C'est pour ça aussi qu'on est là. C'est qu'on vient parler de ça à des personnes qui sont aussi pas en contact avec ces personnes-là. Là, pendant plusieurs jours, on a eu des personnes qui nous ont aidés, qui sont des gens qui vivent dehors. Et en fait, ça, personne le sait parce que souvent, en fait, on le voit pas. Mais voilà, on a eu deux personnes qui sont des gens qui sont dans une période difficile. Et c'est important de rapprocher en tout cas ces histoires-là pour faire en sorte que elles puissent en sortir aussi.
Oui, d'ailleurs, à Tsukasa, tout le monde peut venir manger en fait. Comme c'est à prix libre, quelqu'un qui a des moyens peut venir et laisser un prix. Tu parlais de mélange des publics.
Nous, ce que l'on... En fait, moi, je suis arrivé là il y a 2 ans et il y avait plusieurs constats. Il y avait le constat de, quand on parlait de la notion de partage, de respect des personnes, il y avait la question du système, on va dire, de l'aide alimentaire qui est aussi très problématique aujourd'hui parce qu'invendus des grandes surfaces, parce que ces invendus sont défiscalisés, parce qu'en fait, on se retrouve dans le système du don. Il y a toujours ce truc de quand on reçoit, on se sent presque coupable, en fait, de recevoir, ou la personne qui donne ne nous donne pas le choix, en fait, d'une certaine manière, où on n'a pas le droit de dire non à un don. Ça, c'est de manière générale, c'est souvent le cas. Et alors que c'est pas, il faut pas que ça soit comme ça, parce que du coup, ça vient nous bloquer aussi à notre place, et on essaye de militer là-dessus. Nous, l'autre partie, elle est de se dire, en fait, c'est pas parce que on est un endroit, certes, qui a une destination sociale, mais en fait, si on veut que les personnes puissent, en tout cas, leur donner un contexte qui puisse leur être positif, ça passe par le fait de ne pas cloisonner aussi ces endroits-là à des personnes en situation de vulnérabilité, précarité. Mais en l'ouvrant en fait au plus grand public. L'autre réalité, c'est aussi que c'est des personnes qui ont très peu de, on parle de pouvoir d'achat ou en tout cas de capacité financière, elles en ont très très peu. Donc du coup, pour nous, à terme, aujourd'hui, c'est un projet qui est très financé par l'État, mais on ne sait pas. Là, on a eu chaud parce que ça aurait pu radicalement changer. Mais voilà, on a ces incertitudes-là. En fait, il faut qu'on puisse être plus autonome. Et le fonctionnement de se dire que demain n'importe qui se présente et puisse participer, c'est quelque chose qui est important et qui nous permettrait d'avoir une petite capacité financière pour pouvoir acheter des denrées et ainsi de suite et de meilleure qualité. Et ça passe aussi par tout le principe de la participation libre qui est non stigmatisante, qui est non excluante, qui permet à chacun de pouvoir poser la question de la valeur d'usage aussi et du rapport qu'on a en fait à l'expérience et à ce que l'on vit. C'est quelque chose qu'on est en train de creuser parce que du coup on s'est rendu compte, on l'a lancé depuis septembre dernier, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui marchent très bien et qu'il y a des choses qui marchent pas du tout et qu'il faut qu'on re-questionne parce que c'est des sujets très, c'est un sujet qui est très central dans tout ce que l'on fait. Et puis après la question de ce partage-là et l'autre réalité et la dernière réalité par rapport à ce sujet-là, c'est de demain en fait, est-ce que des personnes qui ont des habitudes, on va dire de restauration, où ils viennent manger, ils ont un service, ils ont des plats, un contexte, un environnement, est-ce qu'ils seraient prêts à s'installer à la même table qu'une personne qui en fait n'a pas eu accès à des douches depuis 3 jours ou 4 jours ou plus, qui vit dehors depuis un certain temps et vit dans une période un peu tendue et du coup va parler un peu plus fort, va être un peu plus bousculante dans sa manière d'être, mais sans être évidemment une mauvaise personne pour autant. Ça vient vraiment questionner ça et je ne sais pas encore si on y arrivera en fait à aller jusqu'à ce point-là, mais on essaye.
En tout cas, il est évident que quand on vit dans la rue, au-delà de la violence que ça peut procurer, car c'est une véritable violence, c'est une violence physique, c'est une violence mentale, bien sûr, on peut rentrer dans des clichés, mais il est évident qu'il y a quelque chose de l'ordre de du psychique qui est extrêmement important. Et quand on a vécu dans la rue, quand on a vécu dans une précarité, sans se laver, les odeurs, le regard des autres, et qu'on arrive à avoir un repas chaud en hiver, à avoir quelqu'un qui, ne serait-ce à un instant, va prendre soin. Ne serait-ce qu'avec un sourire des fois. C'est, on a toujours une sorte de miroir assez révulsant. Je ne sais pas si ça se dit, c'est un petit néologisme, mais en tout cas, on est révulsé par ce qui nous fait peur et ce qu'on ne comprend pas. Et quand on vit dehors, il est évident, en tout cas, ce que moi je comprends, c'est que il y a un positionnement en tout cas psychologique qui est complètement différent. Et au-delà de toutes les addictions qui peuvent être prises, etc., etc. Donc, et c'est sûr que quand vous dites demain vous allez vous asseoir avec quelqu'un qui a pas pris une douche depuis 15 jours, il faut avoir une force, une volonté et une âme humaine au-delà qui doit transcender, parce qu'il faut transcender la chose quand même.
Ouais, bah en fait ça se fait dans les deux sens, c'est-à-dire que ça peut être la même chose pour la personne qui est dehors, est-ce qu'elle a envie de s'installer à côté d'une personne qui a pas du tout les mêmes codes sociaux et de vie qu'elle. Il y a beaucoup de gens qui osent pas, et souvent vous le voyez, si les gens n'osent pas rentrer dans un endroit parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas similaires à ces personnes, ils se sentent pas égal à elles. Et ça, c'est un vrai sujet. En fait, c'est vraiment des questions très fondamentales de notre rapport à la vie, de notre rapport à une situation donnée, etc. Il y a plein d'histoires de vie. Moi, il y a des choses qu'on a envie de mener et peut-être qu'on pourra y réfléchir ensemble, parce que je trouve que de donner la parole à des personnes qui sont à la rue et qui traversent ces moments-là et de les réhumaniser, en fait, dans leur, c'est très important. Je pense que il y a énormément de choses que l'on prend. Une des parties qui commence à être un vrai sujet et qu'on va en entendre de plus en plus, ça va être la dégradation psychologique et psychiatrique des personnes qui sont dehors. Et à voir à quel point, quand on dort pas, enfin, je sais pas vous, mais moi, quand je dors pas de 3-4 jours, ça fait très longtemps que je dors pas, je dors très mal, mais en tout cas, je suis moins patient, je suis plus facilement friable, énervé, enfin, j'arrive moins à me concentrer et puis je me dis, bon, ce soir ça ira mieux, je vais me coucher et demain, je vais pouvoir repartir. Quelqu'un qui vit dehors, elle se pose pas du tout ces questions-là. Et au-delà de l'anticipation des réactions ou des comportements possibles d'une personne dehors, je pense que c'est surtout pour nous, en tant que personnes qui accueillons ces personnes-là, c'est important d'être très humble aussi, et de déconstruire. Moi, c'est ce que je dis beaucoup, en fait, aux bénévoles ou aux salariés qu'on a, c'est déconstruisez tout ce que vous pouvez penser, en fait, tous les préjugés ou suppositions que vous pouvez avoir d'une personne qui vit dehors. Il faut le déconstruire, parce que déjà chaque personne est différente. Et qu'en fait, on se rend pas compte, tant qu'on n'aura pas vécu dehors, on saura pas ce que c'est. Et donc c'est tout le travail que l'on mène, il est là-dedans. Et je pense que, encore une fois, en revenir à la question de l'alimentation, l'alimentation permet ça. Enfin, on parle du terme de la commensalité, du fait de s'attabler tous ensemble, de partager un temps et du fait que ça soit super important. C'est vers ça qu'on a envie de tendre, quoi. C'est
le lien social.
Complètement, ouais. C'est juste que quand on s'assit, en France, on a vraiment cette tradition, en tout cas de culturelle, de s'attabler. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment pas perdre, qui est très important humainement et socialement.
Avant de te laisser retourner au fourneau, donc.
C'est pas moi qui cuisine. En ce moment, c'est pas moi.
Ah non, je croyais que c'était un tablier, c'est une banane.
Hier, c'était moi.
Si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent vous filer un coup de main, que ce soit financier ou même physique, comment est-ce qu'ils peuvent faire?
Alors, il y a une adresse mail du collectif qui s'appelle Se Nourrir, donc senourrir.kansas, canss@gmail.com. Et après, plus particulièrement pour nous, nous on est 4 rue Sainte-Catherine. Ils peuvent nous contacter à sous.kassa@croix-rouge.fr ou directement venir nous voir. On cherche toujours de toute façon des bénévoles, ça reste le cœur de bataille de toute association. On est en train de mener là l'objet de ce que l'on fait aussi ici là, c'est de ramasser des sous, lever des fonds pour créer un gros aussi des groupements de commandes, un groupement d'achat au titre du collectif, pour pouvoir acheter et faire en sorte qu'on puisse bénéficier, travailler avec plus de producteurs aussi locaux, avoir plus de produits frais, fruits, légumes, etc. Merci beaucoup.
Eh ben merci à toi.
Sinon, je m'arrête pas. Hein.